D'être avec nous pour cette rencontre, ce débat, cette table ronde qui porte en sous-titre « Questions d'islam ». Je présente les deux invités qui vont donc intervenir ici sur cette table et avec vous tout à l'heure. D'une part, Annie Niva et Gilbert Sinoué. Annie Niva qui est, vous le savez sans doute, grand reporter de guerre. Bonjour Annie Niva, et écrivain. Brielle Berlondre en 2000 pour Chaîne de guerre, une femme reporter en Tchétchénie. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres. Citons L'endemain de la guerre en Afghanistan et en Irak, Les brouillards de la guerre, La République juive de Staline, dont nous reparlerons d'ailleurs demain avec votre père, Georges Niva, dans une autre rencontre. Et Islamiste, comment il nous voit, c'est un ouvrage d'enquête paru en 2006 et en poche en 2010. Je vous le disais tout à l'heure, ce que j'aime profondément dans ce que vous faites, Aniva, c'est la manière avec laquelle vous l'entreprenez, c'est-à-dire d'être proche des gens, à leur écoute. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs pour cet essai, en quelque sorte, islamiste, comment il me voit, c'est ça?
Oui, allô?
Allô.
Attendez, est-ce que... Vous m'entendez? Voilà, ça marche. Oui, bien sûr que ce qui m'intéresse, ce sont les gens, quels qu'ils soient. Et quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs actions, et dans quelque endroit du monde. Donc, comme je parcours depuis longtemps, effectivement, des terrains plutôt hostiles, puisque ce sont des zones de guerre, et qu'aucune de ces guerres n'est terminée, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Tchétchénie, eh bien, je m'intéresse à ceux qui font la guerre, et dans la guerre, il y a ceux qui ont les armes, mais ce n'est pas forcément les plus intéressants. Il y a les autres aussi, tous ceux qui subissent la guerre. Et pour moi, le dialogue avec tous a de l'importance. Le dialogue, l'écoute, tout ça dans un seul souci qui est de retransmettre donc de façon écrite, puisque j'ai choisi le livre, mais je fais beaucoup de conférences, je parle à la radio, je parle à la télévision, quel que soit le support médiatique, c'est pas important. Pour moi, ce qui est important, c'est de raconter avec un souci de détail, je dis pas d'objectivité, parce que l'objectivité n'existe pas, mais de détail, et avec une grande humilité, de la discrétion, ce que j'ai vu dans des pays où la situation est très complexe, des pays qui font peur à tout le monde et de plus en plus peur.
Gilbert Sinoué, je vous présente en quelques mots aussi, à vous toutes et à vous tous, enfin j'imagine que ça n'est pas forcément nécessaire, mais allons-y, vous êtes né au Caire, en Égypte, donc en 1947, le Caire dont vous dites qu'il était dans ces années-là une sorte de cordou de grenade, où juifs, chrétiens, musulmans vivaient en harmonie. En Égypte, vous avez commencé dans votre vie à vivre sur un bateau, celui que votre père avait racheté au Rwanda.
Ça change pas.
Ça change pas. Le bateau qu'il avait transformé en navire de croisière pour les touristes. Et c'est là, peut-on lire sur votre site internet, que vous avez vu chanter Jacques Brel et que, curieusement, écrivez-vous, à ce moment précis, on y reviendra peut-être tout à l'heure, vous avez eu la certitude qu'un jour j'écrirai, fin de citation. Et vous avez écrit. Dans un premier temps, après des études de guitare classique à l'École normale de Paris à l'âge de 19 ans, ça ne manque pas, vous composez des textes de chansons pour Isabelle Aubray, Claude François, Jean Marais, Dalida, et un jour à l'âge
même
de 40 ans, même chez là, bon, un jour à l'âge de 40 ans, vous arrêtez tout pour publier aux éditions Orban votre premier roman, Nous sommes en 87, et ce livre a pour titre Le pourpre et l'olivier, dont l'action se déroule deux siècles après la mort du Christ. Et depuis, vous n'avez cessé d'écrire, à la fois des livres qui sont des romans, à la fois des romans historiques. Je vais vous citer Erevan, qui était le grand roman de l'Arménie, L'homme qui regardait la nuit, et puis ce printemps, L'aigle égyptien, Nasser. C'est un livre que j'ai lu, qui est un livre bienvenu, utile, pour saisir tout l'enjeu des printemps arabes et ce qui s'en est suivi. Les visages du Reich de 1956 à 1970, porte-parole de la voix des peuples arabes dans le monde entier, n'a certes, comme vous l'écrivez dans ce livre, plutôt à la fois le ciel et l'enfer. Et là paraissent deux livres très différents l'un de l'autre. Le premier, chez Pygmalion, ce sont 12 passions amoureuses qui ont changé l'histoire, c'est-à-dire Edith Piaf, Marcel Cerdan, par exemple, Richard Burton, Elizabeth Taylor, Frida Kahlo, Diego Rivera. Et puis, alors, aux éditions de l'Archipel, L'envoyé de Dieu, une vie du prophète Mohammed. Ce livre, c'est un roman historique, c'est un roman, c'est une biographie.
Non, c'est une biographie. Vous savez, quand on traite de ce sujet, et Anne est là pour confirmer, il faut aller, on marche sur des œufs, j'oserais dire sur des mines, oui. Et donc il vaut mieux faire très attention. Donc, c'est une biographie du prophète, mais je l'ai accompagné de respiration romanesque, de manière à ce que le texte ne devienne pas très vite indigeste. Donc voilà, mais c'est une biographie. En fait, j'ai voulu comprendre, tout simplement, qui était cet homme. Je savais des choses, comme on le sait tous, vaguement. Et je voulais approfondir. Et je voulais surtout rendre cette biographie accessible au plus grand nombre. Parce que souvent, ce sont des biographies très, très didactiques, très universitaires. Et voilà. Et le personnage, je l'avoue, m'a passionné. Mais en même temps, il m'a permis de comprendre pourquoi des gangsters, parce que je ne veux même pas employer le mot islamiste, c'est leur faire trop d'honneur, aujourd'hui tentent de faire une réplique de ce que fut Mahomet il y a 1500 ans. Donc voilà, quand on lit la deuxième partie de la vie de Mahomet, parce qu'il y a deux parties bien distinctes, la première c'est celle de la Mecque, où c'est uniquement un prophète comme tout le monde, j'allais dire comme tout le monde, comme Abraham, comme Moïse, il entend des voix, mais vous savez, Jeanne d'Arc aussi en entendait, il n'y a rien à dire contre lui, il est persuadé que Dieu lui parle, et il est persuadé qu'il a une mission, c'est celle d'enseigner le monothéisme à ses tribus arabes. La deuxième partie, beaucoup plus complexe, nous n'avons plus affaire à un simple prophète, nous avons affaire à un guerrier.
C'est à Médine.
C'est à Médine, où il est obligé de partir parce qu'il est, il est menacé de mort. Et il était protégé jusque-là par son oncle meurt, et là il n'a plus de protection. Les clans ne se protègent plus à un moment donné. Il fuit, il prend les armes, il est d'abord dans une attitude défensive, parce qu'il sait que les gens de la Mecque vont vouloir sa peau, et il est en danger, lui aussi, avec ses fidèles. Première attitude défensive. Deuxième attitude, il prend les devants et il va donc imposer par l'épée, il n'y a pas d'autre formule, l'islam à toute la région et à tout le Maghreb ensuite. Voilà, donc c'est ça qui m'a intéressé. Et je pense, pour abréger, que ces fous aujourd'hui s'inspirent d'une attitude militaire qui
s'est déroulée... De la deuxième partie, voilà, de votre livre. Exactement. Et de sa vie, et non pas de la première.
Exactement.
Ils ont un peu oublié le prophète...
Totalement. Il s'inspire de créer un nouvel État islamique, prendre les armes et reproduire ce que cet homme a fait il y a 1500 ans. Or, ce n'est pas applicable. Ouais. La folie est là, c'est que ce n'est plus applicable, d'où à quoi nous assistons aujourd'hui.
C'est en quelque sorte, si message il y a, c'est cela le message.
En tout cas, c'est celui que je n'ai fait que relater et qui permet à ceux qui le liront de se dire « Ah bon, je comprends mieux pourquoi il y a aujourd'hui des malades mentaux qui tentent de refaire un scénario qui s'est déroulé il y a 1500 ans et qui, d'emblée, n'est plus applicable. Ou alors, il faut être devenu fou comme le sont devenus ces gens-là. »
J'aimerais brièvement qu'on parle d'écriture, parce que sont réunis à cette table, finalement, deux types d'écriture. Il y a la fiction... avec vous, Gilbert Sinoué, et puis avec vous, Anne Niva, le réel.
Et oui, parfois je me demande si je ne ferais pas mieux d'écrire de la fiction.
Pourquoi ?
Parce que c'est dur, le réel. C'est dur, le réel. C'est lourd.
Ouais.
C'est lourd. Et je comprends qu'on... Et j'admire les auteurs qui peuvent s'inspirer du réel pour en faire de la fiction, ou qui, par de la fiction, amènent le public à comprendre des choses du réel. Mais moi, je ne sais pas faire de la fiction. Donc je sais... Je ne sais pas si je sais, mais en tout cas, j'aime faire ce que je fais, c'est-à-dire aller là où beaucoup ne vont pas, pour regarder. Regarder, observer et relater, comme je le dis, je me répète, mais je pense que c'est uniquement parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu, et donc dangereusement, mais en même temps beaucoup de joie, beaucoup d'intensité dans les pays où je vais toujours, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Tchétchénie, que je suis légitime pour en parler, parce que sinon je ne vois pas comment je pourrais en parler, je ne vois pas comment je pourrais l'écrire si je ne l'avais pas vécu.
Donc, pardonnez-moi, heureusement, parce qu'il y a des gens qui en parlent et qui n'ont jamais vu ces endroits.
Oui, il y en a.
D'où la désinformation à laquelle nous avons droit.
Absolument. Et d'où la décrédibilisation légitime des médias et du système médiatique. Et ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Et Dieu sait si je suis critique envers ce type de journalisme. Je suis très exigeante. Mais tout simplement, moi, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est tout simplement vivre les yeux ouverts. Nous vivons dans un confort magnifique, nous sommes sur ce bateau, regardez ce paysage extraordinaire, paisible. Mais en dehors de cette bulle, le monde bouge, le monde boue. Et le monde fait peur, nous fait peur. Je comprends que les gens aient peur. Beaucoup de mes lecteurs, je le ressens dans toutes les conférences que je donne, me parlent de cette peur. Et ils me demandent comment je fais pour ne pas avoir peur. Alors, ça n'est pas que je n'ai pas peur, mais c'est que la peur ne me paralyse pas au point de ne rien faire, de ne rien dire, de ne rien écrire et de ne plus y aller. Moi, quand je vais en Irak, en Syrie, aujourd'hui ou ailleurs, je suis face à des gens comme vous et moi, qui m'offrent le gîte et le couvert. Parce que, et ça vous le savez très bien, Gilbert, cette hospitalité est extraordinaire. Même si le pays est en guerre, même si les talibans sont au pouvoir, même si Saddam, non c'est pas Saddam, Daesh ou pas Daesh, les gens vous accueillent. Les gens vous accueillent, ils vous ouvrent leurs portes, ils vous donnent leur lit. Moi, on me donne souvent un lit et les propriétaires de la maison dorment par terre. Et parce que je suis leur hôte. Et je viens de loin. Et parce que je les respecte, ils me respectent. Et là s'engage un dialogue. Quand le dialogue s'engage, moi je suis contente, j'ai tout gagné. Ensuite, j'ai plus qu'à prendre des notes. C'est
alors
tout.
Précisément, comment faites-vous? Vous prenez des notes au fil
tout le temps. Ouais. Bon, évidemment, inutile de vous dire que dans les pays en guerre, c'est pas la peine d'avoir un ordinateur, c'est pas la peine d'avoir une clé 3G, c'est pas la peine d'avoir quoi que ce soit. J'ai un papier, un crayon, c'est tout. Parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Donc j'écris dès que je me réveille jusqu'à le moment où je me couche. Il n'y a pas d'électricité, donc en Tchétchénie, souvent la nuit tombe tôt. Je prends des notes tout le temps et puis ensuite, ma peur, c'est de perdre mon carnet de notes. D'ailleurs, ça m'est arrivé de le perdre un jour dans une voiture à Bagdad, en pleine guerre, mais on l'a retrouvé, j'étais dans un tel état. Et voilà, donc je prends des notes et ensuite j'essaye d'abord de rentrer de ces guerres dans un état qui me permet de comprendre et d'écrire, ce qui n'est pas facile. Il y a souvent un sas dont j'ai besoin pour me représenter ce par quoi je suis passée. Et d'ailleurs, certains de mes lecteurs, parfois, au début, me disaient « Bravo, Chienne de guerre », qui est mon premier livre, qui est la guerre en Tchétchénie, la plus sordide que j'ai vécue, puisque maintenant, malheureusement, je peux comparer. Certaines personnes me disaient « Bravo pour votre roman ». Mais et en fait, c'est parce que c'était tellement dur qu'on préfère croire que c'est un roman.
Bien sûr.
Mais c'était la réalité de... Il y a des gens qui peuvent parler comme des héros, comme... un jeune homme qui s'appelle Mahmoud, que j'ai appelé Islam dans mon livre, qui a émigré en Pologne aujourd'hui et qui a eu l'asile politique et sans lequel je ne serais premièrement pas vivante aujourd'hui et deuxièmement sans lequel je n'aurais pas cheminé à travers cette société tchétchène si loin de la mienne et je n'aurais pas réussi à essayer de la comprendre, en tout cas de l'apprivoiser autant.
Alors vous rentrez, vous avez vos notes, il y a le sas et après vous écrivez.
Oui.
J'aimerais que vous nous parliez de ce travail d'écriture.
C'est dur. Alors,
on y viendra tout à l'heure avec Gilbert sur le plan de la fiction.
Oui. Alors, l'écriture, pour moi, c'est de la solitude, c'est de l'isolement. Et puis, c'est beaucoup avoir à revivre tout ce que j'ai... Quand je relis mes carnets de notes, je revis le moment, souvent. Donc ça, quand je l'ai écrit, je l'ai écrit de façon à ce que je puisse justement ressentir cela quand je vais le relire. Ce qu'il faut ensuite, quand je suis dans l'écriture, c'est construire le livre de façon compréhensible pour le lecteur qui n'a justement pas été sur place. C'est cela pour moi le plus gros travail, de faire en sorte que ça ne soit pas trop compliqué. Mais sinon, Sinon, en fait, le principal du travail, je le fais sur place. C'est-à-dire, les notes que je prends sont pas des, c'est pas du style télégraphique, c'est déjà beaucoup écrit.
Gilbert Sinoué, si on s'arrête à ce roman graphique, historique, comment avez-vous travaillé ? Comment travaillez-vous sur la fiction ?
Écoutez, en général, je pars du principe que si je fais un roman historique, encore que cette fameuse appellation est bizarre, mais bon, c'est ainsi. On fait des romans
historiques. Comment vous l'appelleriez, vous ?
C'est du roman.
Voilà.
C'est tout. Quand on lit les mémoires d'Adrien de Yourcenar, c'est un roman historique. Je veux dire, à quel moment commence le roman historique ? Bon, bref, c'est un autre débat. Non, quand je fais des romans historiques en général, je pars du principe qu'il y a un décor fixe, qui sont les personnages qui ont existé. Et bien cela, il faut être très respectueux parce que le lecteur croit ce qu'on raconte. Donc si on se met à dire, si Bonaparte dit je vais aller manger un McDo, ça passe pas. Donc il faut faire très attention à ce qu'on raconte. Maintenant, à côté de ce décor, c'est la liberté du romancier de s'amuser à s'infiltrer à travers les personnages historiques, le décor, etc. Et puis, vous savez, souvent, heureusement pour le romancier, d'ailleurs, il y a des trous. Quand vous écrivez la vie de, je ne sais pas, moi, j'ai écrit la biographie d'Avicenne, médecin persan, évidemment, personne n'était là pour témoigner. Donc c'est le plaisir du romancier d'imaginer ce qu'Avicenne aurait pu dire ou écrire à ce moment-là. Ça, c'est un vrai plaisir. Moi, je me régale en faisant ça. Mais concernant le prophète, j'ai pas pu m'amuser. Ce n'était pas du tout une partie où j'ai pu me laisser aller, à lui faire dire des choses impossibles, parce que j'aurais subi les foudres. Puis c'est pas le principe. J'ai pas envie de faire un livre provocant. Moi, c'était pas mon but du tout. Je suis infiniment respectueux de la religion musulmane. Je ne suis pas croyant. Je ne crois en aucune religion, mais je voilà. Et donc, j'avais pas envie de faire un livre polémique. J'ai simplement, comme disent les Anglais, facts only facts. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et donc voilà.
Quelle source à l'origine ?
Écoutez, concernant la vie du prophète, c'est pas compliqué. Hein. Il y a eu pendant un certain temps des témoignages oculaires, la tradition orale, et il y a eu une première biographie qui a été rédigée quelques décennies après sa mort, d'un type qui s'appelait Ibn Ishaq. Cette biographie a eu 5 exemplaires. Lui-même l'avait rédigée en fonction des témoignages qu'il avait pu recevoir. Et puis, ces 5 copies, 4 ont disparu. Il en est resté une qui a été reprise ensuite par un autre biographe qui s'appelait Ibn Hisham, un Syrien, qui lui s'est amusé à ajouter des choses qu'il arrangeait, c'était un chiite, et donc il a donné un rôle au gendre du prophète Ali, un rôle
considéré comme exagéré.
C'était Rambo tout à coup. Mais bon, bref, c'est la seconde biographie que nous possédons, c'est sur celle-là qu'on se base, et sur les fameux hadiths, c'est-à-dire les propos qu'a pu tenir le prophète et qui ont été rapportés par ses disciples.
Donc, dans un premier temps, vous avez rassemblé tout cela.
Oui, c'est pas compliqué, ça. C'est vraiment pas compliqué. C'est à la portée de tout le monde. C'est pas le boulot que fait Anne. Elle n'est pas obligée d'aller sur le tas à la Mecque pour aller vérifier. Donc, c'est pas du tout le même travail. Les notes existent, elles ont été prises, on a les propos, on a les discours, on a le Coran, qui souvent est en contradiction avec... Certains versets sont en contradiction avec d'autres. Voilà, donc c'est assez simple. Ce qui est compliqué, c'est en fait de retranscrire ça de manière à ce que le lecteur ne s'endorme pas. C'est ça la difficulté.
Mais pourquoi c'est tellement ennuyeux, la vie du prophète ?
C'est,
bien sûr que non.
C'est pas ennuyeux, Anne. Mais j'ai toujours peur. Moi, vous savez, je suis un autodidacte. J'ai plus appris à travers des romans qu'à travers mes livres scolaires, où je me suis ennuyé.
Ah oui, donc vous avez la hantise.
J'ai hantise d'emmerder le lecteur. Voilà.
Je suis sûr que c'est
donc
pas
je me
cas.
Dis que s'il s'emmerde, c'est foutu. Et donc voilà, il faut faire attention. Puis la vie du prophète, est-ce qu'elle est ? Elle est parsemée de... Tous les matins, il a une révélation. C'est quand même très troublant. Dès qu'il a un souci, boum, il a un SMS qui lui tombe de là. Il y a même un exemple assez frappant. C'est les fameux versets sataniques qui ont valu à Salman Rushdie une fatwa. Mais ces versets existent. C'est-à-dire qu'un matin, le prophète à la Mecque sent bien qu'il commence à avoir des ennemis... assez agressif et que sa vie est vraiment en danger, quoi. Et il s'attaque aux polythéistes, il y a 350 idoles à la Mecque. Il faut savoir qu'à la Mecque, le fameux cube, la Kaaba, était déjà véné du temps avant, à l'époque pré-islamique. C'est les gens déjà adoraient les idoles. Et ils allaient en pèlerinage à la Mecque, bien avant le prophète. Donc là, il sent qu'il est en danger. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive et il dit, voilà, il y a une sourate. Et puis tout d'un coup, il ajoute... Mais vous savez, les fameuses idoles, il nomme les trois idoles qui étaient les idoles fondamentales de l'époque, et il dit, voilà, mais ceux-là aussi, on peut les vénérer. Puis il rentre chez lui, et là, il y a un SMS de l'ange Gabriel. qui lui dit, mais tu as perdu la tête, tu es devenu complètement fou. Où tu as sorti cette histoire? Et Mahomet lui dit, mais c'est Dieu qui m'a transmis l'information. Il dit, non. Il y a mauvaise communication sur la ligne, c'était Satan.
Ah oui.
D'où les fameux versets sataniques. Et il revient à la Mecque, enfin à la Kaaba, et il dit « Erreur, j'ai été induit en erreur par Satan. »
Anniba, il est à venir.
Oui, non, mais depuis la publication de ce livre...
Ça fait que deux jours, je suis encore vivant.
Ça fait que deux jours, voilà. Et y a-t-il eu des réactions?
Pour l'instant, non. Mais je ne dis rien de mal, vous savez.
Non, mais j'en suis sûr.
Je ne dis rien de mal.
Qui parle dans votre livre? Parlons de...
C'est un vieil homme...
Qui s'appelle Al-Nabati.
C'est un gamin de 30 ans qui arrive, qui n'a pas connu le prophète, qui va retrouver un de ses anciens compagnons 40 ans plus tard. Il dit, écoute, je ne connais pas le prophète, raconte-le-moi. C'était qui ce type? Dis-moi tout. Voilà. Et évidemment, il y a des passages où le môme se dit, mais attends... Est-ce que c'est plausible? Est-ce que ça ne l'est pas? Etc.
Il y a des passages dans la première partie de votre roman, tout à fait intéressants. Hein. Je cite « Vouloir qu'une seule religion prédomine sur toutes les autres, c'est vouloir qu'il n'y ait plus qu'un seul jour et jamais plus de nuit, qu'il n'y ait que des dattiers et autres espèces d'arbres, désert régnant partout et jamais de fleurs, uniquement des enfants mâles et jamais de filles. Suis-je clair ?» lui dit-il.
Oui, c'est le dialogue qu'ils ont entre eux. Mais ce n'est pas le dialogue que tient Mahomet.
Non, mais c'est quand même intéressant de voir ce dialogue-là.
J'ai voulu de temps en temps me faire plaisir.
À propos des islamistes, quelle définition...
Je crois qu'il faudrait que j'emporte un certain nombre d'exemplaires pour les donner aux islamistes que je rencontre ici et là.
Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir vraiment...
connaissent assez mal, finalement, la vie de Mahomet.
Non, mais votre vision, enfin, la vision que les islamistes ont de nous, c'est celle-là qui me passionnerait de savoir. Comment ils nous voient? On est Satan, on est quoi?
Ah, mais bien sûr, ils nous voient avec autant de stéréotypes et d'idées reçues que nous en avons sur eux. C'est-à-dire que des deux côtés, la vision n'est pas claire. Et la vision est avec des stéréotypes, c'est-à-dire qu'on a peur l'un de l'autre, les uns des autres.
Ils disent quoi de nous?
Eh bien, d'abord, les femmes, par exemple, que j'ai rencontrées en Irak, en Afghanistan, étaient très, très curieuses de voir une femme occidentale que je représentais à leurs yeux, et que finalement, elles trouvaient, en me voyant et en voyant mon intérêt pour elles, ma curiosité et mon respect, qu'elles trouvaient finalement pas du tout... comme l'image qu'elle se faisait de la femme occidentale. Parce que quelle est leur image de la femme occidentale? Eh bien, c'est une image qu'elles voient, qu'elles perçoivent d'après les chaînes de télévision par satellite qui arrivent aujourd'hui à Bagdad et ailleurs, alors que sous Saddam, ils n'avaient pas le droit à l'antenne satellitaire. Depuis que Saddam n'est plus là, tout le monde en a. Puis même sous Saddam, c'était caché dans des poulaillers, etc. Et les talibans, c'était pareil. Mais aujourd'hui, quand même, je me rappelle en 2004, 5, 6, quand j'arrivais en Irak et que je me retrouvais dans des familles où ils me racontaient qu'ils zappaient sur les 400 chaînes. Alors même s'ils ne comprennent pas les langues occidentales, ils voient les images qui sont très fortes. Et je me rappelle de cette femme Nidret à Kirkouk, dans le nord de l'Irak, qui me racontait à quel point, qui était professeure d'anglais dans une école, et qui me racontait à quel point elle était choquée. Parfois, elle voulait pas que ses enfants voient ces images. Et ces images, c'était quoi? C'était les présentatrices de la Raïoun, Odou, Etré, Léveline, qui présentent la météo.
En mini-jupe.
Voilà, court vêtue, avec les épaules dénudées, etc. Très, très choquant. C'est ça l'image de la femme occidentale.
Je vais vous citer Anniba, c'est en Irak, donc lorsque j'aborde, c'est vous qui parlez, hein, Lorsque j'aborde le thème des relations hommes-femmes en Irak et le statut de la femme dans les pays musulmans en général, mes deux compagnons masculins se lèvent et partent faire un tour, entre guillemets, en m'attendant. J'ai commis un impair, oubliant que la jeune femme ne peut se permettre de répondre librement à mes questions devant un homme de sa famille, encore moins en présence de deux étrangers. Elle rit de ma maladresse et nous poursuivons tranquillement notre discussion. Pour moi, dit-elle, l'Occident ne respecte pas les femmes. Et ça me pose un vrai problème. En Occident, la femme n'a pas d'honneur, alors qu'ici, notre dignité est reconnue et nous sommes respectés. Tout est dit dans le Coran. Si nul homme autre que mon mari ne doit apercevoir mon corps, c'est avant toute chose par respect pour ma personne. Chez vous, n'importe quel homme peut passer une nuit avec n'importe quelle femme qui lui a plu, mais que fait-on des enfants ? S'exclame Nidret, semblant totalement oublier l'existence de la contraception qui d'ailleurs est peu pratiquée en Irak. Allah nous a créés différents, alors l'homme et la femme devraient respecter cette différence. Bref, dit-elle, chez vous, c'est vraiment le chaos. Fin de citation.
Bon, bah c'est la réponse à votre question. C'est-à-dire qu'effectivement, la question les relations hommes-femmes sont extrêmement différentes en Occident et dans ce Moyen-Orient qui en plus... dans la guerre, devient toujours plus conservateur. Et nous, en Occident, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de respect entre les hommes et les femmes au Moyen-Orient, et au Moyen-Orient, ils ont exactement la même impression sur nous. Donc il y a comme une espèce d'incompréhension et que je me suis efforcée à chaque fois, d'éclaircir, en tout cas de répondre aux questions. Parce que moi, les femmes que je vois quand j'arrive quelque part, parce que ce sont d'abord les hommes que je vois. Je vois les hommes parce que ce sont les hommes qui sont dans l'espace public. Ce sont les hommes qui font la guerre. Mais ces hommes me ramènent chez eux. Chez eux, je vois leur mère, leur fille, leur sœur. Je suis une femme, donc j'ai accès aux femmes. Et ces femmes, bon, la première question qu'elles me posent toujours, elles attendent souvent des heures avant de me voir. Parce que, comme vous savez, comme je l'ai dit, je suis l'hôte, même dans la guerre, même si j'arrive pas à une heure qui est une heure pour manger, on me fait à manger. Qui prépare à manger ? Ce sont les femmes, mais je ne les vois pas, elles sont loin, dans la cuisine. Moi, je suis dans la chambre pour les autres, avec les hommes. Mais après, je sais que je vais voir les femmes. Et comme je suis une femme...
Dans une autre pièce.
Dans une autre pièce. Et comme je suis une femme, j'ai le droit d'y aller, de vivre avec les femmes, dans cette autre pièce, qui sont les véritables pièces de la maison. Et là... elles me posent des questions. Elles ont beaucoup attendu avant de me les poser. Alors la première question, c'est « Es-tu musulmane ?» Ça, c'est normal. C'est parce qu'elles me voient voilée. Donc je leur explique que non, je suis chrétienne et que je suis voilée devant elles pour deux raisons. Premièrement, pour ma propre sécurité, parce que nous sommes en guerre et que je ne peux pas... si je n'étais pas voilée, je me ferais remarquer. Et deuxièmement, par respect, bien sûr. Donc elles le comprennent parfaitement. Mais la deuxième question montre bien la différence de rapport homme-femme, c'est qu'elle me demande toujours comment ton mari a-t-il pu t'autoriser
à voyager,
à être là, à faire ce que tu fais. Ça, je les vois plonger dans des abîmes de perplexité. Effectivement. Alors, je leur explique que ce ne sont pas toutes les femmes occidentales qui font ce métier de reporter de guerre, déjà. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez original. Et deuxièmement, j'essaye de leur raconter que mon mari est journaliste aussi et qu'il respecte mon choix d'être journaliste, ma curiosité de journaliste, et que donc je ne lui ai pas demandé la permission. Et c'est là que les hommes, qui souvent dans ces familles font la traduction, ne traduisent plus. Cessent de traduire, parce que là on arrive sur des sujets qui les mettent très mal à l'aise. Et les femmes sentent qu'ils ne traduisent plus. Alors, parce que je parle 2-3 minutes et ils traduisent en 10 secondes. Alors on s'en rend bien compte, et puis finalement tout le monde en rit, et puis on essaye quand même, parce que les femmes ont envie de me poser plus de questions sur cette liberté que je représente. Et alors mais j'ai senti deux choses. Il y a soit des femmes qui sont envieuses de cette liberté, mais elles sont en minorité. La majeure partie des femmes que j'ai rencontrées, mais attention, je parle de pays qui sont en guerre, donc dans lesquels tout va mal, la majeure partie de ces femmes ne sont pas envieuses de ma liberté. Elles sont perplexes devant cette liberté qu'elles n'ont pas. Qu'elles n'ont pas, et qu'elles ne savent même pas si elles pourraient l'avoir ou si elles voudraient l'avoir. Mais elles me posent des questions par curiosité.
Bien sûr.
Et c'est ça que j'aime.
Mais il y a quand même une interrogation. Comme comme disait M. Ferla, moi j'ai vécu en Égypte jusqu'à l'âge de 19 ans, et je n'ai jamais vu de femme au Caire, durant toute mon enfance, qui était voilée. Elle se baignait en bikini parfois, ou en maillot une pièce. Elles étaient habillées comme toutes les femmes présentes ici. Je n'ai pas connu ça. J'ai voyagé en Syrie, je suis allé en Libye, je suis allé au Liban, bien sûr, mais le Liban était beaucoup plus évolué. Je n'ai pas connu ce problème. Donc, cette histoire de... Vous savez qu'en 1928, la première femme féministe est égyptienne, s'appelle Hoda Sharaoui. Elle arrive sur un quai de gare au Caire, elle était voilée, mais parce qu'à l'époque, les femmes voilées en Égypte, c'était les femmes de grandes familles. Oui. C'était pas
c'était
les gens
signe
du peuple.
D'appartenance.
Un signe d'appartenance, une caste. Elle arrive sur le quai de gare, elle retire son voile devant les journalistes, elle le jette par terre, et elle dit plus jamais. Et nous sommes en 1928. Donc ma question, c'est, je comprends leur tradition, je connais ce pays comme vous. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, parce que moi, je n'ai pas connu l'inverse. C'est-à-dire ce que vous racontez, je ne l'ai pas connu. Je n'ai connu que les femmes voilées.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1975... voilà, parce que quand je suis retourné en Égypte 20 ans plus tard, mes bras m'en sont tombés. Je voyais des femmes de plus en plus voilées, avec le foulard, etc. Ah, pardonnez-moi, je vais juste faire une petite parenthèse. J'ai été invité à l'Université du Caire à faire un débat comme ça avec un professeur dans la seule section francophone de l'université. C'était que des femmes. Mm-hmm. Et elles avaient toutes un voile, enfin, le foulard. Hein, oui. On ne parle pas du tout du niqab. Hein. Mm-hmm. Et une de leurs profs n'était pas du tout voilée. Et se lève une étudiante qui me lit un passage d'un bouquin, un des bouquins, où elle me dit « Vous racontez que quand vous viviez au Caire, les femmes n'étaient pas voilées. » Et vous êtes tout étonné de constater aujourd'hui, qu'est-ce qui vous étonne ? Ah, je lui dis, écoutez, j'ai connu vos mères, j'ai connu vos grands-mères. Elles se baignaient en maillot, il n'y a pas de maillot islamique. Elle me répond, ce n'était pas de bonnes musulmanes.
C'est l'argument.
Je ne comprends pas. Ça veut dire que vos mères étaient quoi, des non-croyantes ? Non, non. Mais la religion n'était pas aussi importante pour elles. Alors. Je lui ai dit, écoutez, il y a une question fondamentale. Que vous portiez le voile ou ne le portiez pas ne me pose aucun problème. Et ça ne me pose aucun problème. Moi, une femme qui a un foulard sur la tête ne me dérange absolument pas. C'est sa tradition, je la respecte. Je lui ai dit, ce qui m'importe, c'est de savoir si vous avez le choix. C'est ça
si
le
c'est
problème.
Un choix.
Si c'est un choix délibéré, comme ces femmes que vous citez, la liberté, elles s'en foutent. C'est un choix. Ou si elles
si
sont.
Si c'est imposé.
Voilà. Tout est là.
Que dit Al-Nabati du voile dans votre roman?
Ben voilà encore un passage assez intéressant dans l'histoire du voile. Mais nous ne parlons pas du voile intégral, hein, mettons-nous bien d'accord, pas du hijab qui enveloppe le corps de la femme jusqu'aux chevilles. Mais vous savez comment c'est né cette histoire? C'est assez intéressant d'ailleurs quand on se plonge dans la biographie. Ben, vous imaginez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de sanitaire. C'était ou des maisons en pierre ou des tentes. Et la nuit, les femmes se levaient pour accomplir leurs besoins. Et il faut savoir qu'à l'époque pré-islamique, et même du temps du prophète au début, les bédouines étaient habillées de manière assez provocante et assez légère. On le voyait, la poitrine, enfin une partie des seins, etc. Donc elles sont harcelées dès qu'elles sortent parce que des hommes les guettent, ils sont à l'affût. Et elles finissent par aller voir le prophète et lui disent « Écoute, on ne peut plus continuer comme ça. Tous les soirs, on est harcelé par des abrutis qui veulent absolument... Bon. » Et il leur dit « C'est votre faute. Vous n'avez qu'à vous habiller décemment. » Et l'histoire du voile commence là. C'est-à-dire, couvrez-vous la poitrine, soyez décente et ne soyez pas en état de provocation. C'est uniquement un conseil de décence. Oui. Bon, qui en plus s'est transformé avec les gants, les lunettes Dark Vador. Mais ce n'était pas comme ça, je veux dire. Au départ, c'était un conseil de décence. Et on en a fait maintenant une espèce de drapeau... Mais ça vient de là. Et l'histoire du voile intégral, l'histoire du voile carrément sur le village, elle vient beaucoup plus tard, et c'est une autre anecdote. Le prophète se marie pour la 11e fois, et là, il a ses copains qui sont invités, il y a un dîner, etc., le mouton, et puis comme il avait la belle Aïcha, qui était, paraît-il, comme on dit de nos jours, un canon, les titres ne partaient plus. Ils étaient là pour la voir, tellement elle était belle.
Même voilée.
Non, elle n'était pas voilée, justement. Pas voilée. Il n'y avait pas de voile à l'époque. Justement, juste le hijab.
Oui, voilà.
Mais le visage était complètement apparent.
Et c'est-à-dire une houppelande vaste.
Voilà. Et il quittait
cache
pas.
Cache forme féminine.
Voilà, pour cacher un peu. Et les types ne partaient plus. Ils se lèvent, ils passent devant eux, ils repassent, ils sont toujours là. Ils quittent la maison, tellement il est énervé. Ses amis commencent à comprendre, ils s'en vont. Quand il revient, la sourate descend. Et il dit, à partir de maintenant, vous adresserez aux femmes du prophète que derrière un voile. Et là, c'est le grand débat. Qu'a-t-il voulu dire? Est-ce que... Et aux femmes des croyants, pardon. Est-ce que les croyants, c'était uniquement ses disciples? Est-ce que c'était uniquement ses femmes? Et là, on a un débat de théologiens musulmans qui n'en finit plus.
Cette scène que vous venez de raconter, vous l'avez inventée?
Non. Ben,
non. Ah non.
Je n'ai rien inventé.
Je vous pose la question. Je
dis tout de suite, absolument rien. C'est dans la biographie authentique, celle qui est reconnue par tous les théologiens et tous les musulmans du monde entier. Je ne me suis pas permis d'inventer, et surtout pas ça.
Alors, pour continuer dans ce domaine, et avec une autre petite anecdote, et pour vous montrer comment les jeunes musulmans se sont adaptés au port du voile, et qu'évidemment la séduction continue, en Afghanistan, alors que j'étais dans une voiture en train de me rendre à la frontière de l'Est vers le Pakistan, avec un jeune ami musulman qui conduisait, moi j'étais derrière, sous ma burqa, parce qu'il était hors de question.
Carrément la burqa.
Ah oui, en Afghanistan, obligatoire. L'Afghanistan aujourd'hui même, en 2015, en Afghanistan, on sort de Kaboul, toutes les femmes sont en burqa. Donc
qui n'est même pas dans succès. L'islam d'ailleurs, c'est pas une...
Absolument. Ça, c'est une culture talibane. Je suis donc derrière, non pas devant, parce que ça ne se fait pas qu'une femme soit assise devant, il faut qu'elle soit derrière. Donc je suis sous ma burqa et il est au volant, dans une espèce de chemin caillouteux, on va assez lentement. Et en face de nous arrivent trois femmes, trois burqas, trois silhouettes en burqa.
Ça peut être trois hommes.
vous allez voir. Et, pas pour un œil averti. Et justement, il me dit, regarde... comme elle est belle. Je dis, qui? Elle me dit, la troisième, là.
Non.
Elle est magnifique.
Non.
Et je lui dis, c'est pas possible. Comment peux-tu dire ça? Comment elle est magnifique? Tu ne la vois pas. Et il m'a dit, si. D'abord, je l'imagine. Et deuxièmement, sa façon de marcher, qui n'est pas celle des deux autres devant.
Oh là là.
La finesse de ses chevilles, le vent qui passe dans la burqa, etc., etc. Vous voyez? Il faut se débrouiller, on s'adapte.
Autre anecdote dans votre roman, l'origine des boucles d'oreilles.
Ah oui.
Ça, c'est assez drôle aussi.
Je
ne
me souviens plus, je sais que c'était... Je ne sais plus ce que c'était, en fait. Il fait percer les oreilles de Aïcha, je
oui.
crois. Mais je ne sais plus à quelle occasion.
Non, mais l'origine, c'est pour rabaisser la femme.
Ah oui, effectivement.
Vous avez bien lu, hein. Content de la rabaisser en lui perçant les oreilles.
Oui, effectivement, les boucles d'oreilles sont nées d'une sourate, effectivement. Où c'est l'ange Gabriel, encore une fois, lui, qui doit punir, Aïcha, je crois, qui a commis une action. Ah oui, je vois très bien de quoi il s'agit. Et oui, effectivement, on lui perce les oreilles, ça sera son châtiment.
Ouais.
Et donc les boucles d'oreilles sont nées de Mahomet, en quelque sorte.
Ouais, et ne sont plus considérées comme un châtiment.
Non.
Quelle est votre définition d'un islamiste ou d'une islamiste?
Bon, islamiste, c'est un mot un peu galvaudé, mais vous dites les bandits, les
gangsters.
Les gangsters, oui, les criminels. Les terroristes. Mais moi, ceux à qui j'ai parlé, c'est ceux, disons, qui invoquent l'islam pour tuer.
C'est ça.
Ça, ce sont des islamistes. Heureusement, je le dis et je le répète, ils sont encore en minorité. La majorité sont des musulmans simples qui subissent la violence des islamistes. Aujourd'hui, Daesh, c'est cela. Mais il n'y a pas que Daesh.
Vous êtes allé dans des villes occupées par Daesh ?
Je suis allé à Ramadi, à Fallujah et à Mossoul avant qu'elles ne soient occupées. Mais je peux vous dire, et je l'ai écrit dans tous mes livres.
Je voudrais savoir quel est le sort de ces gens aujourd'hui.
Mais c'est-à-dire que même avant qu'elles soient occupées par Daesh, on se rendait compte qu'elles étaient, que les habitants de ces villes étaient des ultra-conservateurs, des gens qui étaient avant tout mus par si vous voulez, c'est la situation politique en Irak qui a provoqué tout ce que nous voyons aujourd'hui en Syrie, et notamment le fait que les sunnites ont été exclus du pouvoir. Or, Daesh est exclusivement en terre sunnite. Et ce sont pour le moment les limites, je pense qu'elles tiendront. Et donc moi, les populations qui m'ont accueilli à Ramadi, à Fallujah en 2004 et après, mais en 2000, je parle de 2004 parce que c'est la bataille qui a été, que les djihadistes eux-mêmes ont comparé au Vietnam. Et là, pour entrer à Fallujah, il a fallu que je mette des gants noirs. Parce que c'était ça, à l'époque, la mode à Fallujah, en plus de la baïa noire, etc. Et bien, ces gens-là, et aujourd'hui, ils font partie de Daesh, ces gens-là qui m'ont accueilli. C'était des gens qui étaient extrêmement déçus par ce qui se passait politiquement à Bagdad, évidemment par l'invasion américaine, et qui ont pris des armes, qui ont été, il faut le dire, financés par les Américains. Les Américains ont beaucoup financé. De toute façon, les Américains ont fait en Irak ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est-à-dire qu'ils financent de part et d'autre pour ne pas avoir à faire la guerre eux-mêmes. Le problème, c'est que ça sème un peu la pagaille. Et que, avec tout cet argent inondé, toutes ces zones inondées par l'argent américain, évidemment, achètent des armes. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, nous ne vivons que les conséquences de toutes ces guerres inachevées qu'on a un peu oubliées aujourd'hui, mais dont aucune n'est terminée, absolument.
Lorsque vous les rencontrez, ces gens, qu'attendent-ils de vous, pensez-vous ?
Écoutez, les gens, d'abord, mais ça... Tout le monde veut toujours embrouiller tout le monde. C'est-à-dire, moi, les gens qui me parlent croient que, parce qu'ils me parlent, dans la minute suivante, ils seront à la télévision. Quand ils me voient arriver, ils me disent « Où est ta caméra ?» Je n'ai pas de caméra, je n'ai qu'un papier et un crayon. Alors, je leur explique, ils comprennent. Mais je dois dire que c'est la même chose dans des contrées occidentales plus civilisées. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on interviewe quelqu'un, il est content d'être interviewé. Bon, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. D'abord, je comprends que ces gens, là je ne parle pas des islamistes, je parle de tous ceux qui m'ont accueilli et qui vivent mal et dont j'essaye de recueillir le témoignage. Ces gens-là, ils attendent de moi que je ne cesse pas de m'intéresser à eux. Et c'est pour ça que je continue. C'est-à-dire que moi, quand je rentre et que les rédacteurs en chef divers et variés à Paris me disent « Bon, c'est fini, Oulirap, oulala ». C'est comme vous, avec votre peur d'ennuyer le lecteur. Mais les rédacteurs en chef pensent que ça n'intéresse plus personne. Alors, ils ont en même temps tort et raison. C'est-à-dire que ça dépend comment on raconte l'histoire, bien sûr. Mais moi, je pense qu'il est indécent d'aller de guerre en guerre comme si je papillonnais de fleur en fleur.
En plus, je crois que c'est pas vrai. Tout n'est pas fini du tout.
Absolument. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Tout continue. C'est un leurre de croire que c'est terminé. Et puis, de toute façon, ce sont des histoires humaines, donc complexes. Et je ne vois pas comment je pourrais cesser de m'y intéresser, tout simplement parce qu'il n'y a plus officiellement de guerre sur place. En gros, en très gros, mais malheureusement, c'est ça. Dès qu'il n'y a plus de militaires américains, quelque part, il n'y a plus la horde de journalistes qui les accompagne. Voilà.
Est-ce que vous avez interviewé un de ces fous de Dieu ?
Bien sûr.
Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ?
À Damas. Ouais. Non, pas, c'est beaucoup plus compliqué. À Damas, en Syrie, j'en ai interviewé un en 2006. Là, vous allez me faire raconter quelque chose.
Non,
en 2006, alors que on était au plus fort de la guerre civile en Irak, entre sunnites et chiites, il y avait 300 morts par jour. Cet homme était un personnage du jeu de cartes inventé par les Américains, donc un combattant. Et ça avait été compliqué d'obtenir ce rendez-vous, très compliqué. J'avais mis 9 mois par des intermédiaires divers et variés. Et quand la possibilité m'a été donnée de le rencontrer à Damas, alors que c'est un Irakien, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas. Mais le fait d'aller à Damas était déjà, pour moi, en soi, une information, parce que ça voulait dire que la frontière était poreuse. Et figurez-vous que j'étais enceinte quand j'ai été à Damas interviewer cet homme-là.
Ouais.
J'étais enceinte de 3-4 mois, donc ça ne se voyait pas du tout. Mais Damas, à l'époque, était extrêmement sécurisé. J'étais, pour moi, aller à Damas, c'était beaucoup moins impressionnant que d'aller à Bagdad, à l'époque. Et la conversation a duré très longtemps. Ce genre de personnage est souvent très intéressé par ma biographie. Parce que, si vous voulez, ils font la même chose que nous. Hein. Ils ont les mêmes accès aux médias, donc ils vérifient tout. Donc, ils vont voir sur Internet qui est le journaliste en question. Ils se font traduire ce qu'on a écrit. Et après, ils décident s'ils veulent nous voir ou pas. Et avec tout ce que j'ai vécu en Tchétchénie, évidemment, ça, ce sont des guerres qui les intéressent. Donc, et puis, moi, je n'ai rien à cacher. Je suis très franche. Donc, il l'a bien compris. Et j'en joue pour avoir accès, bien sûr. Et donc, j'ai été reçue. Et je n'ai pas pour habitude de parler peu aux gens que j'interview, parce que si on parle peu, on ne comprend rien. C'est déjà difficile de comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Et donc ça a duré des heures et des heures. Et puis on a parlé d'abord des kidnappings, parce que c'était l'époque où il y avait beaucoup de kidnappings de journalistes étrangers. Ils les tuaient. Daesh tue aujourd'hui, mais on tuait déjà à l'époque. Bien sûr. Et je lui ai dit, je comprends pas. Parce qu'il, non, lui, il m'a dit, mais je comprends pas pourquoi vous, les journalistes occidentaux, pourquoi vous ne venez pas, en gros, faire notre promotion. Je lui ai dit, mais enfin, vous nous tuez. Vous nous kidnappez, vous nous tuez. Comment voulez-vous que... Non, mais il m'a dit, mais on tue ceux qui doivent être tués. C'est-à-dire, mais ceux qui sont des traîtres. Ceux qui travaillent pour les espions. C'est leur... ils ont l'impression que... C'est-à-dire, ils ne savent pas ce qu'est le métier de journaliste. Donc, j'ai dû faire une conférence pendant 2 heures sur ce qu'était le métier de journaliste. C'est-à-dire, lui expliquer que moi, je ne travaillais pas pour les services secrets français. Mais il m'a dit quelque chose. Vous voulez savoir ce qu'ils ont dans la tête. Il m'a dit... Mais parce... Il m'a dit, si nous... S'il y avait une guerre en France, et qu'il y avait des journalistes irakiens qui allaient couvrir cette guerre, ces journalistes irakiens travailleraient pour les services secrets irakiens. Donc c'est ça, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Donc ils pensent que c'est la même chose pour nous, les journalistes occidentaux.
Mais le but poursuivi, ils veulent quoi? Ils veulent quoi? L'éradication de l'Occident?
Ils veulent le pouvoir. Ils veulent bien sûr le pouvoir. Ils veulent ne pas être humiliés. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils appellent, eux, être humiliés. Évidemment.
Pas l'Occident.
Absolument. Absolument. C'était la teneur de son discours. C'était un homme plutôt sympathique, un tueur. Et quand, après avoir parlé 4-5 heures avec mon interprète, j'avais fait venir un ami irakien interprète, qui est maintenant réfugié politique au Danemark, j'avais très faim parce que j'étais enceinte. Et je n'aurais jamais fait ça d'habitude, mais j'ai dit à mon interprète, à Moudi, je lui ai dit, écoute, j'ai très très faim, je vais tomber dans les pommes, il faut que je mange quelque chose. Donc tu peux leur dire, s'il te plaît, il faudrait que je mange. Il m'a dit, ah non, je ne peux pas leur dire. Je ne peux pas leur dire parce que c'est honteux, je ne peux pas parler de ça, je suis un homme, etc. On ne parle pas de ces sujets. Je lui ai dit, écoute, si tu ne leur dis pas, je vais leur dire. Là, je vais leur dire. Moi, je n'ai aucun problème à leur dire, écoutez, messieurs, je suis désolé, donnez-moi un bout de pain. J'ai très faim parce que j'étais dans un appartement à eux, on ne pouvait pas vraiment en sortir, c'était compliqué. Et finalement, il leur a dit, et dès le moment où il leur avait dit, cette espèce de chef de guerre terrible s'est transformé en un. Parce qu'il a vu en moi la future mère. La future mère, et donc il a donné des ordres immédiats pour qu'on aille me chercher un festin. Ils sont tous revenus au bout de 10 minutes avec. On a mangé
c'est
pendant 2 heures.
Ouais.
Bref, vous voyez, c'est très compliqué parce que c'est tout ça est plein de paradoxes. Mais ces gens sont détestables, sont abominables, mais il faut leur parler.
Oui, bien sûr.
Il faut essayer de savoir ce qu'ils ont dans la tête.
Pour enchaîner sur ce que vous dites, deux citations de ce livre. Anniva, Anis Ahmed, Pakistan, vice-directeur de l'Institut d'études politiques, il vous dit ceci notamment, le propre du Coran est l'esprit critique. Une image erronée de notre livre est apparue. Plus tu serais proche du Coran, plus tu serais dogmatique. C'est faux, car le Coran nous demande d'explorer sans cesse.
Je suis très dubitatif, parce que à partir du moment où, vous savez, le problème, il est où? Le problème, il est... Je fais un parallèle qui va peut-être vous choquer, mais qu'on retrouve dans les trois religions monothéistes. Moi, la marraine de mon fils est catholique pratiquante. Un jour, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les silences de Dieu », où C'était mon côté un peu fou ce jour-là. J'ai imaginé qu'il y avait un crime au paradis, un serial killer, et que Mahomet, Jésus ou Moïse étaient peut-être l'un des trois coupables. Rien que de lire ça, elle avait trois signes de croix. Elle m'a dit, je vais faire des neuvaines pour ton âme, etc. Enfin, j'ai des amis juifs, Dieu merci assez libéraux, mais il y en a d'autres. Si vous osez dire que Moïse a traversé à gué, probablement, et qu'il n'a pas fendu les eaux de la mer Rouge, c'est très grave. Je veux dire, il vous regarde et il décroche une Kalachnikov. Bon. Et vous avez le même problème vis-à-vis du Coran. C'est qu'à partir du moment où ils vous disent c'est Dieu qui a parlé, c'est pas le Coran, c'est pas Mahomet. Mahomet dit qu'il est un simple récepteur. Comment voulez-vous discuter avec quelqu'un qui croit que Dieu a dicté un texte? Je veux dire, c'est impossible, le dialogue n'est pas possible. Quand vous lui dites, mais écoute, c'est contradictoire, dans un verset, il dit, qui peut renier la religion d'Abraham, sinon l'insensé? Bon, très bien. Verset plus bas, si vous êtes l'ami d'un chrétien ou d'un musulman, faites attention, ils sont amis contre vous. Mmh. Vous avez des versets d'une violence inouïe. Et d'un autre côté, vous avez Abraham, la Vierge Marie, Moïse, tout le monde est adorable, tout le monde est bon.
Il y a tout et son contraire.
Tout et son contraire. Et quand vous dites « ça ne va pas », alors il vous dit « oui, il y a des versets qui sont contradictoires ». Mais il faut savoir que le dernier verset contredit le premier. Mais comme on n'a pas l'ordre des versets, on ne sait pas. Mais vous ne pouvez pas avoir ce dialogue. C'est impossible. Vous ne pouvez pas dire à un juif ultra-orthodoxe que son histoire est folle, qu'on ne peut pas...
Non, parce que c'est le lien avec Dieu, effectivement.
Vous avez des juifs ultra-orthodoxes aujourd'hui en Israël qui obligent les femmes à s'asseoir à l'arrière, eux à l'avant, et qui jettent des pierres sur les voitures le jour du Shabbat. Mais c'est la même folie. Il faut savoir que nous avons affaire à la même folie. Donc le dialogue avec ces gens n'est pas possible. Elle les rencontre, elle les interview, mais elle aura bien du mal à les convaincre.
Oui, absolument. Mais je ne cherche même pas à les convaincre. Et en plus, moi, c'est un dialogue, disons, d'individu à individu. Oui. Moi, je ne représente pas un État. C'est-à-dire le dialogue au niveau politique ne peut pas avoir lieu.
Impossible.
Au niveau individuel, moi, je continue à croire qu'il est possible de dialoguer avec qui que ce soit.
Bien sûr.
Mais le problème, c'est que, voilà, moi je ne veux pas aboutir à une solution. Moi, je ne suis pas un homme politique. Bien sûr. Mais que voulez-vous répondre à quelqu'un qui, évidemment, qui rend Dieu à chaque phrase qu'il fait?
C'est une question qu'on pose souvent dans les médias, en tout cas.
C'est souvent quand ils ne savent pas quoi répondre. Hein.
Est-ce un clash de civilisation?
Je laisse Anne répondre.
Vivons-nous un clash de civilisation?
Oui.
Je ne sais pas, mais nous sommes très loin les uns des autres et chacun pris dans nos extrêmes. Parce que, comme vous venez de le dire, il y a aussi de l'extrémisme ailleurs, et notamment et également parmi la religion chrétienne. Donc, c'est-à-dire, et par extrémisme, j'entends une absence, une étroitesse d'esprit. C'est-à-dire, je crois qu'il faut ouvrir les yeux. Nous vivons dans un monde ultra-violent. Moi, je passe ma vie dans des pays en guerre, dans lesquels la violence est, disons, normale, banale, je dirais presque. Mais vous savez, c'est terrible de dire ça, parce que je rentre ensuite dans mon pays qui est la France, qui n'est pas un pays en guerre, mais dans lequel je sens des violences aussi extrêmes, et induite, tabou, et je sens des malaises, et je sens du déni. Et moi, moi qui passe mon temps à passer de l'un à l'autre, aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce sur quoi il m'intéresse d'écrire aujourd'hui, sur ces différentes formes de violence, et je crois que je vais m'intéresser bientôt à mon propre pays.
C'est-à-dire à faire en France une sorte d'immersion telle que vous l'avez faite.
À essayer de voir la France comme avec des yeux bien ouverts et un sens de l'observation comme je l'ai fait ailleurs.
Vous avez commencé?
Je suis en train de commencer.
D'accord.
Je ne pense pas que ce soit une guerre de civilisation, honnêtement. Parce qu'il y a 1,2 milliard de musulmans dans le monde, ils ne sont pas en guerre contre nous. Ce n'est pas la civilisation islamique qui déclarait la guerre à la civilisation
occidentale. C'est une minorité de fous furieux.
C'est une. Vous savez, dans les westerns, il y a des tickets à quelle diligence. Pour moi, c'est la même sorte de gens. Ce sont des bandits, des gangsters, c'est les Dalton. Sauf que ils sont. sauf que nous sommes responsables de les avoir créés. C'est ça le gros problème.
Et c'est ça qu'on ne veut pas voir.
Voilà. Nous avons créé ces gens. Ce sont nos créatures, ce sont nos Frankenstein. Les Américains ont commencé à jouer ce jeu en Afghanistan.
Pour financer les talibans, voilà. Pour combattre l'Union soviétique.
Monsieur Bush a eu l'idée géniale d'aller envahir l'Irak, ne sachant même pas où était le pays sur la carte. Il ne savait pas qu'il donnait un coup de pied à la fourmilière, et on le sait très bien parce qu'il n'y a pas un islam, mais il y a des islams.
Et il a joué les tribus chiites, sunnites, il a financé tout le monde.
Et il a donné un coup de pied à la fourmilière.
Puis il a laissé tomber tout le monde.
Qui fait ce qui se passe aujourd'hui. On est allé se mêler en Syrie ou en Libye. Alors l'idée géniale de Sarkozy, c'est d'étrôner Kadhafi, le méchant dictateur, seulement, je suis d'accord.
On voit ce qu'est la Libye.
Enlevons les dictateurs, mais qui est une pièce de rechange. Mais si vous n'avez pas une pièce de rechange, n'allez pas démonter un pays si vous ne savez pas par quoi vous allez le remplacer.
Parce que la Libye, aujourd'hui, c'est Daesh.
Voilà. Et aujourd'hui, on a les chrétiens qui sont en train de crever en Orient. Donc voilà, nous sommes responsables de leur création. Maintenant, c'est à nous de gérer un problème. Et je vais peut-être vous choquer, mais je pense que je vais vous choquer. Je ne crois pas, je crois au dialogue individuel. Mais je crois qu'on ne peut plus dialoguer avec ces gens. Moi, si un type rentre chez moi avec une Kalachnikov pour tuer ma famille, je vais décrocher une Kalachnikov. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que l'Occident ait le courage de refaire ce qu'il a fait pour une mauvaise cause, l'Irak, où on a ameuté le trois quarts de la planète pour aller détrôner un marionnettiste. Là, il faut qu'il y ait des hommes qui débarquent en Syrie, qui débarquent en Irak. 100 000 hommes suffiraient. Ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas d'avions, ils n'ont pas de bombes atomiques. Demain matin, le problème est réglé. Seulement, la lâcheté veut qu'on ne va pas risquer une vie humaine, un soldat, et qu'on va se laisser bouffer tout le Moyen-Orient, parce qu'ils sont à la porte de Damas, ils seront bientôt à la porte de Beyrouth. Et je crois qu'il faut les arrêter militairement. Voilà, c'est mon idée.
Mais ils sont peut-être plus nombreux que vous ne le pensez. Hein.
Écoutez, vous savez, il y a un livre d'Olivier Roy que je trouvais formidable. Il estime que Daesh s'est mis en situation extrêmement périlleuse malgré les apparences. Quand vous aviez affaire à une nébuleuse qui s'appelle Al-Qaïda, difficile à cerner. D'accord ? Les grottes d'Afghanistan, le bras. Là, ils ont voulu créer un État. Donc, ils sont répertoriés dans une région précise. Plus facile à éliminer. Donc, même s'ils sont 30 000,
si on s'en donne les moyens.
Il faut s'en donner les moyens. Mais je pense qu'on est en guerre. Il faut arrêter de se leurrer. Ce n'est pas les bombardements épisodiques. Ce matin, le Figaro, en titre, les bombardements ne servent strictement à rien. Donc il faut avoir le courage de dire, écoutez, on arrête, on sauve les pauvres chrétiens qui restent encore dans cette région du monde. Et voilà, et il faut agir. Mais là, on discute. Et voilà.
J'aimerais qu'on évoque un moment d'histoire qui est dans votre roman, c'est la bataille du chameau.
Oui, qui a été déclenché par la belle
Aïcha. Voilà, ouais. Racontez-nous.
Ah, ben c'est encore c'est un autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Aïcha, qui était la préférée du prophète, celle qu'il a épousée quand elle avait 9 ans, cette femme est accusée d'avoir trompé le prophète. C'est-à-dire qu'ils sont dans une caravane, elle voyage en palanquin, protégée. Et puis au matin, la caravane repart et les porteurs ne sont pas aperçus comme elle était très fine, très légère, etc. Qu'elle était bien en palanquin. Donc, ils font une halte quelques kilomètres plus tard et tout le monde cherche Aïcha. Et tout à coup, au bout de quelques heures, on la voit arriver avec un chamelier, très beau d'ailleurs, paraît-il. Et elle arrive là et évidemment, tous les ragots commencent. Elle dit. Écoutez, moi je cherchais mon collier que ma mère m'avait offert et je ne le trouvais pas.
Je suis parti
chercher. Quand je suis revenu, vous n'étiez plus là. Donc je me suis endormi au pied d'un palmier. Et là, le chamelier Intel est arrivé. Et elle précise, c'était l'époque où nous ne portions pas de voile. Donc il m'a reconnu. Il m'a pris sur son chameau et me voilà. Alors seulement, la rumeur
enfle.
Et tout le monde dit, Mahomet est cocufier. Et lui, par fierté, n'ose pas lui poser la question. Bon, ça tourne en rond pendant un certain temps. Et finalement, Mahomet est en larmes. Il est amoureux fou de cette femme. Et il y a son gendre et cousin, Ali, qui lui dit, écoute, tu nous emmerdes avec cette histoire. Va lui poser la question. Et puis, tu sais, des filles, il y en a partout. Ah, tu vas pas, tu la perds, celle-là, bon, il y en a d'autres. Elle entend la remarque. Et vous n'imaginez pas ce que cette petite remarque va déclencher. C'est-à-dire qu'après la mort du prophète, il y a qui va lui succéder. Normalement, ça aurait dû être son gendre et cousin Ali. C'était un membre de sa famille. Or, les autres membres de la tribu ont choisi quelqu'un d'autre. Ali est très mal vu, il s'en va, il va vers Bagdad, et là, il y a un meurtre qui est commis, et les gens de la Mecque lui disent « Livre-nous le criminel !» Et Ali dit « Non, il sera jugé par moi. » Et la vraie Aïcha, qui n'a pas oublié la fameuse remarque, va déclencher la guerre. Elle va prendre les gens du prophète, les compagnons, et lui, il faut lui régler son compte. Et c'est là que vont naître les chiites, voilà. Le schisme entre les sunnites et les chiites, né à cause d'une phrase malencontreuse du genre du prophète qui dit « Des femmes, il y en a des tas ». Et c'est comme ça que va naître la première guerre entre musulmans. Donc méfiez-vous, jamais une femme, non, il y en a d'autres.
Quel plaisir, Gilbert Silhouet, à écrire un roman comme celui-ci.
C'est pas un roman, attention, il y a un petit côté romanesque, oui. Mais... Écoutez, c'est passionnant de rentrer dans la vie de ce type. C'est passionnant, moi j'ai trouvé ça... Attendez, maintenant, on a beaucoup ironisé, mais je vais quand même revenir à quelque chose de sérieux. C'est quand même un homme extraordinaire. Il faut se mettre en tête qu'au 7e siècle, par exemple, la femme n'avait strictement aucun droit. Mais quand je dis aucun droit, c'était un Kleenex. Les gens rentraient de guerre, faisaient l'amour avec X ou Y, les jetaient, elles étaient enceintes, on s'en foutait. Mais cet homme est arrivé, a dit non. Les femmes ont un droit. Elles ont même droit à l'héritage. Il faut les respecter en tant que telles. Vous ne pouvez pas abuser d'une femme et puis l'abandonner. Et là vient la fameuse phrase qui nous fait sourire, nous, en Occident, mais qui est très importante. Vous ne pouvez épouser que 4 femmes.
Oui.
Et il faut qu'elles soient chacune dotées de la même manière. C'était un progrès, nous oui. Ça nous amuse, mais c'était une révolution à l'époque. C'est-à-dire, non, vous ne pouvez pas vous amuser comme ça à prendre n'importe quelle femme et puis l'abandonner. 4 seulement, et 4, si vous offrez un collier à l'une, il faut que l'autre. Bon. C'était quand même une révolution. Il a quand même amené. Il a quand même instauré aussi une sorte de code napoléonien sur l'héritage, sur le mariage, sur les droits, sur le partage, dans tous les domaines. Le Coran n'est pas une religion, c'est une loi. Donc vous voyez, c'est quand même, ça a été quand même un révolutionnaire à l'époque.
Mais combien en a-t-il épousé réellement ?
Il a eu des compagnes et des femmes qu'il a épousées. Je ne sais plus le nombre exact. Il y a eu 11 en tout.
Plus que 4.
Oui. Il y en a eu plus que 4 sûrement. Et il a eu 11 femmes dans sa vie. Et paradoxalement, il n'a jamais eu de fils.
Il a d'ailleurs cru à un moment donné être frappé d'une malédiction.
Oui, oui. C'est ça. Tous les enfants, les quelques garçons sont morts nouveau-nés. Et puis il y a eu des filles.
Question d'islam. J'imagine qu'il y a plein de questions ici. Voilà, très bien, madame.
Rapide.
Merci beaucoup. J'aimerais savoir comment cet homme, Mohamed, ignorant, a pu faire tout ce qu'il a fait. Enfin, juriste, comment il a pu.
Micro. Elle n'a pas besoin du micro, je crois.
Merci. J'aimerais savoir comment Mohamed, qui était ignorant, a pu édicter toutes ses règles.
Il n'était pas ignorant. Non, vous confondez analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Mais il y a des tas de gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui sont des gens brillants.
C'est pas ignorant.
C'est pas ignorant. C'est un homme qui devait être extrêmement intelligent, extrêmement perceptif, qui a dû comprendre. Et n'oubliez pas que cette région était peuplée de juifs et de chrétiens. Il y avait des monastères. La cousine de la femme du prophète, Khadija, le cousin, pardon, de la femme du prophète, était un moine. Et quand elle a voulu avoir confirmation, est-ce que vraiment son mari a été interpellé par Dieu, est allé voir le moine. Donc, il a encore. Mahomet, son génie, c'est qu'il a entendu, sûrement, il le savait, puisqu'il parle d'Abraham, de Jésus, de la Vierge Marie, etc. Il a entendu les autres religions monothéistes, et il les a accueillis. Et il s'est dit, mais mon peuple à moi n'en a pas de religion. Il adore les idoles. Et donc, la démarche est brillante. Il s'est dit, il faut que j'évolue. Il faut qu'on laisse tomber l'idolâtrie et qu'on aille comme les chrétiens et comme les juifs vers le monothéisme. C'est comme ça que naît l'islam. Donc l'idée pour moi, c'est pas un ignorant, c'est un type qui a eu une vision formidable.
Merci. Je peux vous poser une autre question. Quand vous avez expliqué que les 10 premières années, c'était les années à Médine.
À la Mecque.
À la Mecque, et qu'après, après, ça abroge.
C'est ce qu'on appelle l'année de l'Égypte, oui.
Alors, la catastrophe, c'est que ça, après, c'est oui. La guerre, la catastrophe. Et maintenant, il y a 1 milliard de musulmans qui suivent la deuxième partie.
Non.
Comment
non, faire pour non. Anne, vous la faites bondir là. Il n'y a pas 1 milliard de musulmans qui ont pris les armes contre nous.
Non, je me suis très mal.
Il y a une partie.
Je dis comment faire pour remettre à jour la première partie qui était. Plus...
Mais les musulmans, la plupart des musulmans, alors moi j'en connais un, hein, sûrement, on le connaît tous, et vous en connaissez sûrement, vous êtes oriental, vous. Donc vous devez en connaître, ce sont des gens maléfiques, adorables et tout à fait infiniment respectueux de tout. Donc ils n'ont pas besoin, eux ils appliquent leurs croyances, leurs convictions. C'est une partie de fou, il y a une partie...
Non, je ne parle pas de ça, je parle de l'islam en général, la réinterprétation des écritures basée sur les 10 premières années.
Mais je pense qu'elle est faite, la plupart des musulmans sont complètement... aucun musulman que je connaisse autour de moi là, ne se lève un matin en disant « je vais vous éradiquer », ils sont tout à fait...
Je parle de ça, je parle de remettre à jour la première partie... Dans les
livres,
dans les écoles.
Mais ils l'étudient, ils la connaissent. Ils la connaissent. Le problème,
ils la connaissent, mais ils s'intéressent qu'à la
deuxième.
Ils cherchent leur légitimation dans la violence, dans les moments guerriers de la vie du prophète.
C'est sûr. Mais
ils instrumentalisent la biographie.
L'islam a un gros problème que nous avons connu. Le christianisme l'a connu. On ne va pas parler de ce qui s'est passé en Suisse. Par exemple, au moment de la réforme, il y a eu pas mal de sang qui a coulé ici aussi.
Oui.
On va parler de l'Inquisition, de Torquemada, de toutes les croisades. On est passé par notre crise de folie. Nous l'avons connu, ce passage. Donc, mais il y a eu une remise en question. Il n'y a plus question aujourd'hui d'aller nous amuser à refaire les croisades. Le christianisme s'est remis en question, il a évolué. Et surtout en France, on a séparé l'Église de l'État, chacun chez soi. Le problème de l'islam, il est là. C'est qu'il n'y a pas eu de refonte. Il n'y a pas de remise en question. L'islam, le Coran reste l'oméga, l'alpha et l'oméga. Et tant que le monde...
Un mode de vie.
Voilà. Ne va pas séparer l'un de l'autre, je crois que le monde arabe va piétiner et va même reculer. C'est ça le drame du monde arabe.
Il y a deux questions ici.
Et je travaillais sur la Syrie, donc je vous remercie de votre rôle de médiation, parce que je pense que c'est très important. Les gens ont beaucoup de clichés depuis toute cette histoire de choc des civilisations, etc. Ma question, c'était par rapport aux esclaves sexuels de Daesh. Est-ce que vous en pensez ça d'un
mais là, elle était une.
Non, je n'en sais pas plus. Je peux rien vous dire et ça ne fait pas partie de mes sujets. Tout simplement parce que je n'aime pas tout ce qui est surmédiatisé.
Tu en es même pas sûr.
Moi j'ai aussi. C'est pas vraiment
moi je parle de ce que j'ai pu vérifier.
C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt quelque chose que j'ai vécu. J'ai été en Iran l'année passée et j'ai été très frappée. Bon, déjà par l'accueil. J'ai déjà été frappée par l'accueil extraordinaire des gens là-bas. Je crois, je comprends ce que vous dites par rapport qu'il faut vraiment aller dans les pays pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de valeurs aussi, les valeurs de la famille que nous avons perdues, il y a une entraide familiale, un respect extraordinaire. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est la liberté, on avait accès dans les mosquées, de femmes bien sûr, mais c'est la liberté dans ces mosquées. Les femmes avaient des iPads, des iPhones, discutaient entre elles, mangeaient, pique-niquaient, etc. J'ai jamais vu ça dans une de nos églises. Et je dois dire aussi que dans les grandes villes, dont Téhéran, les femmes portent des leggings, des petites tuniques qui leur cachent les fesses, des foulards qui laissent voir les cheveux, très maquillées et tout. Et une grande liberté entre les jeunes, entre eux, dans les parcs publics, on s'embrasse, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose que... une idée que j'avais pas du tout de l'Iran. Hein. Voilà.
Oui, mais l'Iran est un cas très particulier. évoque la Tchétchénie,
les pays en guerre.
La Syrie qui est en lambeaux, l'Irak, et c'est pas du tout. L'Iran est un cas vraiment très très particulier, mais le reste du Moyen-Orient, pas ça.
Une dernière question avant de nous séparer.
Bonjour, ma question pour Aniva. Je sais que vous avez des amis en Irak qu'on a vu dans, lu dans vos livres, dans votre film aussi. Et je me demandais si vous étiez encore en contact avec eux, par exemple. Je me rappelle du pharmacien irakien qui se demandait s'il voulait partir. Je ne sais pas si.
Tahloub.
Voilà. Si ces gens veulent partir d'Irak, ces gens qui sont peut-être un peu entre deux, coincés entre les islamistes, mais quand même sunnites, quel était leur sentiment par rapport à la situation aujourd'hui ?
Merci de me poser cette question, parce que pas plus tard qu'hier, vous faites référence à mon film. Je n'ai fait qu'un seul film qui s'appelle « Irak, l'ombre de la guerre » et que vous pouvez aller voir sur YouTube, il est en accès libre, et dans lequel je parle, il y a plusieurs personnages, il y a ce Tahloub, ce jeune pharmacien, dont j'avais rencontré la sœur Asil, qui était médecin urgentiste dans un hôpital terrifiant de Saddle City, un quartier de Bagdad, et qui ne portait pas le voile et qui se faisait menacer parce qu'elle ne le portait pas. En pleine guerre, c'est comme ça. C'est d'ailleurs là aussi, les médecins se faisaient menacer de mort parce qu'ils n'avaient pas réussi à soigner un tel ou un tel dans l'hôpital, etc. Eh bien, Asil, qui, alors que je trouvais que ce n'était pas une très bonne idée, il y a 4-5 ans, m'a dit « je vais venir en France ». Elle est venue, elle a eu beaucoup de mal parce qu'évidemment, on n'a pas reconnu ses diplômes de médecin, etc. Elle a reçu la nationalité française avant-hier matin.
Oh, génial.
Donc c'est merveilleux, et elle a travaillé comme assistante infirmière, alors qu'elle est médecin, dans un service de gérontologie à Strasbourg. Ses chefs de service ne savaient même pas qu'elle était médecin. Aujourd'hui, elle a réussi tous les examens pour. Elle est en train de devenir gynécologue. Voilà. Et Tahloub, son frère, lui donne beaucoup de soucis parce qu'évidemment, à son tour aussi, il veut partir. Il veut partir et il veut lui aller en Finlande. Je ne sais pas pourquoi la Finlande, donc on en est là. Et comme je vais partir en Irak dans quelques semaines, je vais le voir.
Aniva, je vous remercie. Gilles Gassinoué aussi.
Merci à vous tous.
Et vous tous pour cette première.